journal de midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio de la Paix. En titre de ce 12h, Gilbert Koné Kafana a fait le bilan de ses actions 15 mois après sa nomination. Le président du directoire du RHDP était hier jeudi en conférence de presse au siège du parti Les Échos dans cette édition avec Junior Cardin. Éradication du paludisme en Côte d'Ivoire, un vaccin contre ce fléau bientôt effectif en Côte d'Ivoire et ce dès 2024, a fait savoir le représentant pays de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à l'occasion de la célébration des 75 ans de l'institution onusienne. Et puis dans l'actualité sur le continent, la junte au pouvoir au Mali fixe le référendum sur la constitution au 18 juin prochain. Et puis en toute fin d'édition, vous aurez l'invité de la rédaction et ce jour, il s'agit du porte-parole du PDCI RDA Soumaïla Kwasi Brendoumi en compagnie de Soro Adams. Il se prononcera sur le choix des candidats de son parti pour les municipales et régionales 2023. Bonjour à tous. Première conférence de presse du président du directoire du RHDP hier jeudi au siège du parti. Gilbert Koné Kafana fait le bilan de ses actions 15 mois après sa nomination. Les chantiers ouverts et l'actualité liée aux élections locales de septembre prochain ont dominé cette rencontre avec la presse. Junior Cardin pour plus de détails.
Le président du directoire du RHDP a entamé sa conférence de presse par les défis que le parti s'est assignés avant d'en arriver au nouveau chantier avec la restructuration. Gilbert Koné Kafana.
Sa mise en œuvre a conduit à la création de 350 départements politiques et à l'élection de 350 secrétaires départementaux. 929 zones ont été également instaurées. Nous sommes à ce jour à 436 968 de militants en.
Sur la question du choix des candidats pour les élections locales, le conférencier a indiqué que tout s'est opéré dans la transparence et dans la discipline, d'où l'objectif visé est zéro candidature indépendante.
Nous visons zéro candidature indépendante. Le président du parti attache du prix à ce que chaque militant intègre cette ligne de conduite et se montre discipliné pour que le RHDP affiche un front totalement uni.
Répondant aux journalistes sur la collaboration de son parti avec le FPI pour les élections locales à venir, le président du directoire du RHDP a indiqué que les deux partis aviseront si nécessaire.
Nous sommes deux partis indépendants, mais nous nous accordons de mener ensemble une certaine politique pour la paix et la démocratie. C'est ça notre objectif. Si il devrait revenir une alliance électorale, donc sur ce point, laissez-nous avancer. Nous aviserons chaque fois que cela sera nécessaire.
Koné Kafana a invité les militants à préparer ses prochaines séances électorales dans la plus grande sérénité.
Et la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, professeure Mariatou Koné, a inauguré le week-end dernier plusieurs infrastructures scolaires dans la localité de Guitry, dans le sud du Lodjibois. Et puis au lycée moderne de Guitry, une salle multimédia et une infirmerie ont été réhabilitées par la mairie. Elle a donc félicité les élus locaux pour leur engagement dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacaoyers par la construction d'écoles. Trouvons Abel César Cassien en ligne de Guitry pour plus de détails.
Au lycée moderne de Guitry, construit depuis une quarantaine d'années, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a inauguré une salle multimédia et l'infirmerie réhabilitée et équipée par la mairie. Elle a offert du matériel de plus de 30 millions de francs à cet établissement. Ailleurs, dans la même localité, le même jour, Mariatou Koné a inauguré d'autres infrastructures scolaires.
Si tous nos parents situés dans les zones de production du cacao, vous montrez bien que la place des enfants ne se trouve pas dans les champs de cacao, mais bien à l'école. Je voudrais vous féliciter encore une fois pour votre engagement à côté de Madame la Première Dame à la lutte contre ce fléau.
Le député maire de Guitry explique comment elle a contourné certaines contraintes pour réussir ce pari. Patricia Yao.
Nous avons sollicité des partenaires pour nous aider.
Elle a traduit la reconnaissance de la population de Guitry au couple présidentiel.
Je suis l'intermédiaire, mais les vrais auteurs, ce sont le président Alassane Ouattara et son épouse. Madame la Première Dame est venue à Guitry et cela nous a permis d'avoir le bitume Divo, Guitry, Guitry-Côtière.
A noter qu'une délégation de fondateurs d'établissements privés maillon incontournable de la scolarisation dans le Lot-du-Bois, conduite par le secrétaire général de leur association, Kwaku Kevin, était présent à cette cérémonie. Le premier vice-président Philippe Kragbe représentait, quant à lui, le conseil régional. De retour de Guitry, Lot-du-Bois, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Renouvellement du parc automobile, 40 minibus estampillés, la Bidjanais entre en circulation, sont entrés en circulation depuis le 1er mai dernier à Yopougon et à Abobo. La remise des clés aux bénéficiaires de ces minibus a eu lieu le 29 avril dernier dans la commune de Koumassi, et ce en présence du directeur de la Sotra Industrie, Cissé Bazouma. On fait le point avec Carlos Condé.
C'est Diomand Koné, le directeur de cabinet du ministre des Transports, qui a procédé à la remise des clés aux 40 bénéficiaires, avant de leur prodiguer des conseils d'usage.
Je vous remets donc les clés de votre véhicule, si vous êtes en bon usage. Vous avez dû remarquer qu'il y a de nouvelles immatriculations sur votre nouveau véhicule. Ça lance aussi le départ d'une politique de nouvelles immatriculations de véhicules en Côte d'Ivoire. Et on vous souhaite bonne route. On vous demande de respecter aussi le code de la route, faire en sorte que tous les comportements qu'on constate et qu'on déploie sur la route, vous n'en fassiez pas partie. Avec vous, on va dire ensemble, stop à l'incivisme sur nos routes pour la politique de gouvernement du parc auto. Nous sommes engagés avec tous les transporteurs.
Ce sont des bénéficiaires heureux qui ont reçu chacun une copie du contrat d'acquisition de leur véhicule et la carte grise, ainsi que l'attestation d'assurance. Leur porte-parole, Sadia Wongbe-Sandrine.
Nous vous garantissons de prendre soin des véhicules et d'en faire bon usage. Nous sommes désormais les ambassadeurs du Made in Côte d'Ivoire. Nous espérons solder afin que d'autres transporteurs et conducteurs puissent en bénéficier. Nous avons le devoir de relever le défi d'un transport moderne, y compris la sécurité routière.
À noter que l'objectif majeur du ministère des Transports est d'accroître la mobilité des populations dans le confort au niveau d'Abidjan.
Et puis dans le cadre du programme d'urgence et de soutien aux filières agricoles impactées par la COVID-19, le volet 2 consacré à la filière coton a bénéficié d'un soutien illustré par la remise de matériel roulant et d'équipements agricoles d'une valeur de plus de 4 milliards 390 millions de francs CFA aux acteurs de la filière coton. Témoin de la cérémonie qui a eu pour cadre les locaux de l'Union régionale des coopératives des savanes, Marcel Bonny.
Si l'on tient compte du fait que les producteurs et productrices constituent un maillon capital dans la dynamique de développement de la filière coton qui se veut durable, retenant en substance le matériel mis à leur disposition, énuméré par Sylvie Jacques, coordonnateur du programme d'urgence et de soutien aux filières agricoles impactées par la COVID-19, volet coton.
Dans un contexte de changement climatique avec des pluies tardives qui commencent à détériorer la qualité de notre coton, 3330 bâches de protection ont été mises à la disposition de nos producteurs. 200 bascules électroniques disponibles, 78 tricycles et 22 motos disponibles. 6 camions et un car pour nos producteurs. 40 pompes villageoises ont été attribuées à nos producteurs pour leur permettre d'avoir accès à l'eau potable.
Du matériel dont l'opportunité ressort de ces propos du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kwasi Adjumani.
Dans le domaine de la modernisation, nous sommes venus avec des équipements appropriés pour vous permettre d'agrandir vos différentes parcelles.
Et d'ajouter.
Le président de la République nous a recommandé de mettre en marche l'agropole du Nord. Et au niveau de l'agropole du Nord, nous allons mettre en place des équipements pour vous accompagner dans ce que vous faites. Donc ce n'est pas le moment d'abandonner.
Les acteurs de la filière ont traduit leur joie et exprimé leur engagement à travailler pour le développement du coton en Côte d'Ivoire. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
Parlant de santé à présent, éradication du paludisme en Côte d'Ivoire, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé la mise en œuvre effective d'un vaccin dès 2024. C'était à l'occasion de la célébration de la 16e édition de la Journée mondiale du paludisme tenue le vendredi 28 avril dernier à Grand Morier, dans la sous-préfecture d'Agbouville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Et c'était également en présence du ministre de la Santé, Pierre Ngoudemba, des partenaires techniques et financiers du système de santé, des autorités politiques, administratives et coutumières, ainsi que des populations elles-mêmes. Jean-Marie Vianney, Yamiogo.
S'il est vrai que le nombre de décès liés au paludisme en Côte d'Ivoire a considérablement régressé, il est aussi bon de noter que pouvoir réduire à moins de 90% le nombre de cas et des décès d'ici 2030 reste un défi. Il faut cependant noter qu'il y a des progrès dans la lutte contre le paludisme. Et une des innovations majeures dans la lutte contre le paludisme, il y a l'utilisation du nouveau vaccin que nous appelons le vaccin RTSS, qui est le premier vaccin anti-paludisme recommandé par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Et dans sa phase pilote, le vaccin contre le paludisme a sauvé près de 1 500 000 enfants dans 3 pays, notamment le Ghana, le Kenya et le Malawi. Et ceci constitue un espoir pour accélérer l'atteinte de l'objectif d'élimination du paludisme d'ici 2030. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, nous allons étendre dans le monde entier, et notamment en Afrique, l'utilisation de ce vaccin. Et il y a au moins à ce jour 28 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés à introduire le vaccin antipaludique en 2024. Et les partenaires de la santé, par ma voix, souhaiteraient soutenir la mise en œuvre du plan d'introduction du vaccin contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Mais on saurait se satisfaire des résultats actuels des interventions de lutte contre le paludisme, car il y a encore de nombreux enfants de moins de 5 ans qui continuent d'en mourir malgré tous ces efforts.
Vous écoutiez le représentant résident de l'OMS, Dr Jean-Marie Vianney, Yamé Ogo. Et au moment où l'OMS célèbre ses 75 ans d'existence, l'organisation accroît sa contribution au renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire, et ce dans le contexte de la COVID-19, au cours d'une cérémonie, du matériel informatique et équipements médicaux de plus de 600 millions de francs CFA, dont la première tranche s'élève à plus de 300 millions de nos francs, ont été remis au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La remise de ces lots a eu pour cadre le siège de l'Organisation mondiale de la santé dans la commune de Cocody. Le point avec Paul Bénédicte Bolou.
C'est l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'OMS qui ont été mises en exergue une fois de plus. Le représentant résident de l'OMS, Dr Jean-Marie Vianney Yamiogo.
En appui aux différents efforts remarquables du gouvernement ivoirien, l'OMS a le plaisir de remettre aujourd'hui au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, un lot de matériel et d'équipement destiné aux services décentralisés.
Le ministre de la Santé exprime son immense joie de recevoir ce matériel de qualité, Pierre Demba.
Je voudrais manifester ma joie de recevoir, en ma qualité de ministre en charge de la santé, ce don important. Et je voudrais exprimer ma profonde gratitude et la gratitude de notre pays à l'OMS, tout en rassurant que je mettrai un point d'honneur quant au suivi de leur bonne utilisation pour améliorer les performances de notre système de santé.
Sur la répartition du matériel reçu, le ministre Pierre Demba.
Ce don va contribuer à renforcer la digitalisation des données de vaccination contre la COVID et du PEV de routine, y compris la surveillance des autres maladies. De renforcer les capacités des ressources humaines en santé avec la formation de 3500 agents de santé, d'opérationnaliser les régions et districts sanitaires, d'améliorer la fonctionnalité des centres d'opérations d'urgence de santé publique, de transporter de manière sécurisée les échantillons de l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire, de développer la santé communautaire avec la formation de 1400 agents de santé communautaire, y compris la prévention communautaire, et enfin la mise à disposition de matériel et équipement aux normes.
D'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, le deuxième lot de matériel sera remis par l'OMS très prochainement au ministère de la Santé.
Promotion des emplois du numérique, un atelier de restitution de la stratégie nationale intégrée de la promotion des emplois du numérique s'est tenu hier jeudi à Abidjan. Au cours de cet atelier, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a réceptionné le document élaboré par son ministère en collaboration avec celui de la communication et de l'économie numérique et appuyé par le Bureau international du travail. Témoin pour Radio de la Paix, Jean-Claude Mabéa.
L'une des ambitions de la Côte d'Ivoire est de faire reposer son développement économique et social sur les nombreuses opportunités qu'offre le numérique. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'élaboration de ce document, selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara.
Une étude diligentée en 2021 par mon département ministériel, à travers la Direction générale de l'Emploi, pour cerner l'étendue du secteur des TIC et sa contribution à la création de richesses et d'emplois, dans notre pays. Selon cette étude, le secteur du numérique pourrait constituer un gisement important de création de plus de 100 000 emplois par an. Les résultats de cette étude ont conduit à la formulation de la stratégie nationale intégrée de promotion des emplois du numérique dans une approche participative et inclusive.
Pour le représentant pays du bureau du BIT, cette stratégie du gouvernement doit prendre en compte tous les jeunes, tant en milieu urbain que rural. Frédéric Lapeyre.
L'Organisation internationale du travail, elle est très sensible à cette question de la fracture numérique. C'est-à-dire que ces opportunités, elles doivent pas être seulement pour les jeunes diplômés en secteur urbain.
Réaction de Brooke-Ange Rémy, directeur général d'une entreprise numérique.
Au niveau de notre entreprise, nous avons créé 38 emplois directs que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, grâce à sa direction générale de l'Emploi, a créé pour nous.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a donc appelé l'ensemble des acteurs à non seulement s'approprier cette stratégie, mais surtout de s'impliquer dans sa mise en œuvre.
Ailleurs sur le continent, la junte au pouvoir au Mali a annoncé ce vendredi dans un décret lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, la tenue le 18 juin prochain du référendum sur une nouvelle constitution, initialement prévu le 19 mars mais repoussé. Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Approuvez-vous le projet de constitution, a ajouté ce vendredi le porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga. L'invité de la rédaction de ce jour est le porte-parole du PDCI RDA, Soumaïla Brindoumi Kouassi. Il se prononce sur le choix des candidats de son parti pour les municipales et régionales 2023. Selon lui, c'est après une analyse minutieuse que la liste a été publiée, ajoutant que son parti entend refleurir dans le nord du pays. Soumaïla Kouassi Brindoumi répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, honorable Kouassi Brindoumi.
Bonjour, monsieur Soradam.
Ainsi donc, votre parti, le PDCI RDA, a rendu publique la liste de ses candidats aux élections locales de septembre 2023.
Oui.
Et que devrait-on retenir concernant cette liste?
Cette liste a fait l'objet d'un long processus de sélection. Il y a eu une sélection qui a été faite par rapport au régional et par rapport aux communes. Et au total, nous avons retenu pour les régionales 27 candidatures dans 27 régions et pour les ministères 163 sur les 201 communes, soit un taux de couverture pour les municipales de 81,9%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons commencé notre reconquête du Nord, pour laquelle le PDCI s'est senti un peu absent depuis un certain moment. Donc sur les 9 régions du Grand Nord, le PDCI présente 7 candidatures dans 7 régions. 77%, et sur les 69 communes de la grande région du Nord, le PDCI présente 35 candidatures dans le Nord. Donc nous pensons que le PDCI RDA a véritablement fait les bons choix et cette fois-ci, nous pensons augmenter notre présence dans le Nord et notre présence au niveau national.
Honorable Kouassi Brindoumi, il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones de silence. Alors, pour le parti doyen de la Côte d'Ivoire, pourquoi êtes-vous si absent dans beaucoup de zones?
Nous ne sommes pas absents dans beaucoup de zones. Je vous ai dit que la zone où nous avons progressé en termes de présence, c'est le Nord. Et les cadres du Nord ont présenté au président du parti un document de reconquête du Nord. Parce que, vous savez, je ne vais pas revenir sur une longue histoire, le Nord avait été instrumentalisé à notre défaveur. Et quand nous étions dans le cadre d'une union RHDP, dans les accords de présence et d'élection, en général, nous avons préféré, ou bien il a été des arrangements où nos alliés qui étaient ensemble avec nous ont négocié souvent pour que les candidatures du Nord soient en leur faveur et les candidatures de certaines zones soient en notre faveur. Ce qui a fait que au final, quand on s'est séparés, certains des candidats que nous avons aidés à avoir des postes au niveau des communes comme des régionales s'étaient sentis beaucoup plus proches de notre allié dans son temps. Donc aujourd'hui, maintenant que nous avons pris notre indépendance et notre séparation, nous allons repositionner nos cadres, qui sont les nombreux, à la base existent, les militants existent, nous allons les repositionner et faire une campagne de proximité pour que les cadres du Nord qui sont avec nous puissent reconquérir et se repositionner comme des leaders en termes de gestion des communes et des conseils régionaux.
Honorable Kwasi Bredoumi, qu'en est-il du projet d'alliance avec le parti de Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, avec la publication de cette liste de vos candidats potentiels?
Oui, comme je l'ai toujours dit, le président du parti est en première ligne dans les problèmes d'alliance. Et je peux vous assurer qu'il y a une équipe bipartite qui est composée des représentants du PPACI et du PDCI-RDA après la sortie des différentes listes pour analyser chaque endroit, que ce soit au niveau des régionales qu'au niveau des communales, pour que nous puissions avoir une alliance tactique, une alliance entre les deux partis politiques pour aller aux élections. Et les négociations ont déjà commencé.
Et donc, la liste que vous venez de publier pourrait connaître des changements?
Pas des changements en tant que tel. Ça pourrait varier en fonction des têtes de liste. C'est-à-dire que chacun a présenté sa tête de liste. Et dans chaque localité où le besoin d'alliance se fera, nous allons analyser la capacité et la personnalité des deux têtes de liste et nous allons voir laquelle des têtes de liste peut nous donner beaucoup plus de chance. Une fois que cette tête de liste sera choisie, nous allons faire une combinaison d'équipes. Et ce ne sera pas une affaire de on cède la place à telle personne ou à telle autre. Une question de combinaison d'une équipe pour aller à la conquête des électeurs.
Hormis le PPACI de Laurent Gbagbo, auriez-vous d'autres projets d'alliance dans le cadre de ces élections à venir, d'autres projets d'alliance avec d'autres formations politiques?
Nous pensons que le PDCI-RDA est un parti ouvert, est un parti de dialogue, un parti qui prône la cohésion et au niveau du développement local, c'est une question d'équipe. Donc s'il y a des partis politiques qui ont des intérêts à s'allier avec nous et dont leur apport peut être positif, je pense que tout est ouvert. Mais pour le moment, notre allié qui est le plus probable, c'est avec le PPACI.
Je vous remercie, honorable Kwasi Bredoumi.
Merci beaucoup et bonne chance à nos candidats.
C'était l'invité de la rédaction, le député Soumaïla Kwasi Bredoumi, porte-parole du PDCI-RDA. Il se prononçait sur le choix des candidats de son parti pour les municipales et régionales de 2023 et il répondait aux questions de Soro Adams. C'est la fin de notre édition, le rappel des titres. Gilbert Koné Kafana fait le bilan de ses actions 15 mois après sa nomination. Le président du directoire de RHDP était hier jeudi en conférence de presse au siège du parti. Éradication du paludisme en Côte d'Ivoire, un vaccin contre ce fléau bientôt effectif en Côte d'Ivoire dès 2024, a fait savoir le représentant pays de l'OMS à l'occasion de la célébration de la 16e édition de la Journée mondiale du paludisme tenue le 28 avril dernier dans l'Agnébi-Tiassa. Et puis dans l'actualité sur le continent, la junte au pouvoir au Mali fixe le référendum sur la constitution au 18 juin prochain. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Francis Cassi pour la revue de presse.
Bonjour à tous. Au sujet des élections municipales et régionales de septembre 2023, notre